Le sujet d'aujourd'hui est de parler de la vie transmanche, vivre des deux côtés de la Manche. Je crois que je vais commencer avec une histoire personnelle de quelqu'un très renommé, le plus célèbre des historiens des Normandes, Audric Vital. Vous avez ici une traduction d'un passage fameuse, fréquemment reproduite, fréquemment discutée. Et nous allons le lire ensemble pour commencer l'analyse. Immédiatement, il faut dire qu'il l'a écrit vers la fin de leur vie. C'est la conclusion de son histoire ecclésiastique, où il dit « J'ai passé toute ma vie, etc., etc., et j'espère passer la vie à venir au ciel. » Et il dit « À l'âge de 10 ans, j'ai passé la Manche, la mer Britannique. Je vins exilé en Normandie, inconnu de tout le monde et en connaissant personne. Comme Joseph en Égypte, j'étendis une langue que je ne connais pas. Je ne comprenais pas, mais toutefois, secouru par votre grâce, je trouvais chez les étrangers toute la douceur et l'amitié que je pouvais désirer. » Très, très intéressant, pour plusieurs raisons, je crois, plusieurs raisons que nous pourrions discuter pendant une heure et sans doute beaucoup plus. En premier, il a été né en 1075. Il est venu en Normandie 10 ans plus tard, 1085. Et il est resté comme moine d'Evreux jusqu'à la fin de la vie qui se place aux années 1140. Son père a été français, peut-être normand, mais il s'appelle Odelericus d'Orléans. Sa mère a été une Anglaise dont nous ne connaissons pas le nom. Ça, il y a immédiatement deux choses là très, très intéressantes. En premier, le mariage entre une Normande et une Anglaise. À l'ouest extrême de l'Angleterre, Shropshire. Donc, plusieurs ans après la conquête de 1066, il y a eu les mariages entre les deux peuples. En seconde, comme enfant, il n'a pas parlé le français, la langue de son père. Il a parlé l'anglais et il a dû comprendre le français à Saint-Évroux. Et aussi, il a appris le latin en Angleterre. Et ça, c'est le commencement. Ces témoignages de la formation des nouvelles sociétés, de nouveaux rapports en Angleterre et de la manière de vivre de quelqu'un qui dont les frères se sont restés en Angleterre, mais celui, il a traversé la Manche. Nous devrions, je crois, être toujours surpris que quelqu'un comme qui a commencé comme cela va devenir le plus célèbre historien des Normandes. C'est une enfance très modeste. Et l'autre chose qui peut-être doit nous surprendre, est-ce qu'il a été vraiment l'historien, le grand historien des Normandes, mais pendant toute sa vie, il s'appelle Anglicana. Donc, il est né d'une mère anglaise. Et il a dit cela jusqu'à la fin. Donc, on peut penser, on peut réfléchir immédiatement de son identité personnelle, son identité ethnique. Et finalement, c'est une identité qui a péri avec lui, comme l'identité de presque tout le monde. Mais il faut mettre l'accent. C'est un peu difficile de qualifier Audric Vital comme Normande, n'est-ce pas? Son identité est plus compliquée. Et c'est une des conclusions très, très importantes avec lesquelles il faut commencer cette conférence. En seconde, je vais vous lire une charte et en essayant de l'expliquer. Et je vous ai épargné le texte latin. Les spécialistes doivent m'excuser, c'est un résumé d'un texte très, très intéressant si on commence à faire une interprétation. Donc, si on commence effectivement de faire la prosopographie, de faire analyser les vies des gens qui sont mentionnés. Donation du manoir de Woolley, Berkshire, faite par Adelise de Rivière. Pour le salut de l'âme de son père, de sa mère, de ses fils et ses petits-fils. L'acte est attesté au chapitre de Montebourg et à Carisbrook, sur l'île de Wight. Donc, en premier, et la chose la moins intéressante pour moi, confirmation des deux côtés de la Manche. C'est important. En seconde, Montebourg, la date de la charte. La datation précise n'est pas possible, mais ça doit dater entre 1142 et 1155. Donc, pendant la période de la guerre civile entre l'impératrice Mathilde et son mari, le comte Geoffroy, et le roi Étienne. Donc, on peut commencer en disant que il y a la guerre civile, mais ça n'a pas arrêté les donations d'un côté de la Manche à un autre. Mais beaucoup plus intéressant pour moi est l'histoire de la famille, parce que Adelise a été la veuve de Richard de Rivier, seigneur du Cotentin bien connu, qui a beaucoup profité des terres données par à lui par le roi Henri Ier. Mais Richard est mort en 1107. Donc, la donation aura lieu à peu près 40 ans après la mort de la famille de Richard, du père. Après 40 ans, et les gens qui sont nommés, les trois fils de Richard et d'Adelisa, le comte Baudouin a été comte de Devon, possession en Angleterre. Les deux autres, Guillaume de Vernon et Robert de son mère Église, ont été possessionnés en Normandie seulement. Donc, la guerre civile n'a pas été barrière contre les donations des transmanches. L'absence, les possessions des deux côtés de la Manche n'a pas été barrière à une réunion familiale, et ça doit nous permettre à faire l'hypothèse que c'est la mère qui a réuni les familles près du tombeau de son mari Richard de Rivier. Je vous laisse penser un peu, réfléchir un peu de la situation que nous avons créée. Mais pour moi, ça démontre immédiatement que les liens transmanche ne sont pas toujours exprimés. Il faut lire des milliers de chartes, milliers de documents pour essayer de... Et ce n'est pas tout simplement question des documents. Il faut examiner l'architecture et l'industrie pour déduire les liens transmanche. Il y a une foule, et heureusement, vous avez plaisir d'entendre. Je ne vais pas les en faire. Je ne vais pas raconter beaucoup ce soir. Cela, c'est une illustration. Mais peut-être je peux vous poser un problème pour discuter après. Adelisa, elle a eu trois enfants après, avant, excusez-moi, avant 1107. Nous connaissons qu'elle a vécu qu'après le commencement du règne de Henri II, le fils de l'impératrice. C'est presque certain, je crois, et j'espère de vous faire des calculs, c'est presque certain qu'elle a vécu pendant la vie de Guillaume le Conquérant et pendant la vie d'Henri Ier, d'Henri II. Elle doit être une longue vie très, très intéressante. Oh, si nous pourrions parler avec elle. C'est un moment pour l'envie envers nos collègues de l'histoire contemporaine qui peuvent discuter les choses, qui peuvent faire les entrevues. C'est elle que nous devrions rencontrer. Il y a là toutes ces deux illustrations, ces deux histoires personnelles. Maintenant, je vais essayer de discuter des choses les plus généraux. En commencement, en pensant de 1066, nous devrions jamais oublier les conséquences pour les Normandes, pour les peuples normandes, les peuples bretons, français, flamandes et des autres qui ont traversé la Manche avec Guillaume et pour les Anglais. Presque toute l'élite anglaise d'après 1066 a été dépossédée. Mais la petite histoire d'Audric Vital, de son père et de sa mère, nous illustre la formation des collaborations, des nouveaux rapports, etc., etc. C'est une nouvelle société qui est en train de se faire des deux côtés de la Manche. Il faut souligner des deux côtés de la Manche. Et je vais revenir à ça. L'autre chose, et je dois souligner aussi, et je n'en parlerai pas beaucoup, mais il y a eu des conséquences vastes pour les gens de l'Écosse, pour les gens des pays de Galles, du pays de Galles, et même finalement en Irlande. Des statistiques. Toujours les historiens aiment des chiffres, quelque chose pour Pour la certitude des chiffres, peut-être. Combien de gens du nord de la France ont traversé la Manche avec et après Guillaume? Et nous pourrions peut-être faire une estimation du Doomsday Book. Doomsday Book de 86, où on a trouvé à peu près 2000 Français. Mais il y a beaucoup d'anonymes, des chevaliers, des prêtres qui sont mentionnés sans son nom, et ils doivent être les femmes, les enfants. Si nous disons 5000, cela suffira, peut-être. Et si nous essayons d'estimer la population de la Normandie, quelque chose qui est très, très difficile, Lucien Mousset, je crois, a fait une estimation, si je m'en crois bien, d'à peu près 1 million à la fin du XIIe siècle. Donc, si nous avons... Il a eu beaucoup de doutes sur cette statistique, mais la conclusion dont nous devrions être certains, est-ce que, en conséquence de la conquête de 1066, il n'y a qu'une minorité, une petite minorité, qui ont traversé la Manche? Mais, comme nous a informé immédiatement mes deux histoires, Richard de Rêvier et Audric Vital, cela n'a pas arrêté les traversées de la Manche pendant les décennies suivantes. Et c'est ce dynamisme que je vais parler ce soir. Une conséquence, en premier, une conséquence de la conquête a été la création d'une aristocratie impériale. Les familles des comtes de Chester, les familles des Warren, les familles des comtes de Mortain, etc., etc. Les grandes familles bien connues, très réputées de l'histoire de la Normandie, du royaume anglo-normand et des Normandes. Ces gens ont traversé fréquemment la Manche. Plusieurs d'entre eux ont péri dans la vraie catastrophe de cette histoire, le naufrage de la Blanche Nef, de 25 novembre 1120. Le jour qui a dit Guillaume de Malmesbury, historien aussi de parenté mixte, il l'a dit, c'est le jour qui a changé tout. Mais le désastre, la catastrophe, néanmoins, l'aristocratie impériale a continué. C'est les décisions de Guillaume le Conquérant qui l'a créé et c'est Henri Ier qui l'a renouvelé après les confiscations, après les guerres avec son frère Robert Curthose et après les morts de Blanche-Neuf. Et l'autre chose qu'il faut souligner est l'étendue vaste des terres de cette aristocratie. Les comtes de Mortain, par exemple, Robert Comte de Mortain, frère de Guillaume le Conquérant, il a été au sud-ouest de la Normandie, il a été possédé à la Manche, au sud de l'estuaire de la Seine, en Sussex, à l'ouest de l'Angleterre, au nord de l'Angleterre. Il est partout. Il est membre d'une vraie aristocratie impériale qui a dominé les deux côtés de la Manche. On a beaucoup écrit sur ces familles et de nos jours, on est en train d'étudier plus la manière de gouverner ces terres transmanches. Comment, par exemple, une comte de Mortain, comment, pourquoi a-t-il ou faire sentir son pouvoir à Mortain ou à Lancaster, au nord-ouest de l'Angleterre? Question. Comment? Nous connaissons que c'est la fondation a été, la base de tout a été la formation de ces sociétés régionales et il y a des gens qui, de Mortain qui n'ont pas traversé la Manche. Il y a des gens qui vont vraiment traverser et qui vont rester là, etc., etc. Il faut des analyses très détaillées et en mentionnant ces analyses, je vais mentionner immédiatement des recherches superbes sur la famille Beaumont de David Crouch et sur les Montgomery Bellem et les comtes de Perche de Kathleen Thompson. Et en mentionnant ces deux historiens, les comtes de Perche, ils ont été possédés au sud de la Normandie et il faut mentionner aussi que la société transmanche créée après 1066 est vraiment une société du nord de la France et des îles britanniques. Et autre aspect de tout cela, et que les rois d'Écosse, donc je vais parler un peu plus, sont aussi devenus membres de cette société qui a vécu des deux côtés de la Manche. Pour visiter un site écossais, maintenant en Écosse, de la vie transmanche, il faut aller à Kelso, prieuré de l'abbaye de Tiron, fondé par le roi David Ier. Et nous connaissons que les moines de Tiron ont traversé la Manche pour faire cet abbaye. Ils ont commencé à Selkirk. Mais nous devrions connaître aussi beaucoup d'autres gens qui ont traversé la Manche avec ces moines. L'armée de Guillaume le Conquérant, comment ont-ils vécu après 1066? On peut poser les questions de forme très, très simplifiée. Sont-ils devenus des Anglais? Immédiatement, se sont-ils identifiés comme normandes ou anglo-normandes ou quoi? c'est difficile à connaître, surtout parce que fréquemment on ne connaît pas le nom même. Mais il y a des possibilités. Un document très très intéressant associé avec le Doomsday Book, un document difficile pour des raisons que je ne vais pas expliquer, mais pas difficile pour nous, pas difficile pour notre sujet, heureusement. Et il mentionne les noms des gens qui ont fait le témoignage devant les représentants du roi pour faire le Doomsday Book. Une moitié ont été anglais, une moitié ont eu des prénoms français. Mais de ces Français, la plupart se sont identifiés comme leur terre anglaise. Ils ont un toponyme anglais. Donc, ils s'appellent par exemple Geoffroy de Chelsfield. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont devenus immédiatement des Anglais? Je crois que non. Mais c'est très, très intéressant, et je vais m'expliquer, excusez-moi, mais je crois que c'est, néanmoins, c'est très, très intéressant qu'il identifie le centre de son pouvoir en Angleterre avec un village, en ce cas, à l'est de l'Angleterre. Ils ont dû faire le service militaire au Seigneur, donc ils ont certainement retraversé la Manche avec ces seigneurs, mais Il faut faire une analyse de quelqu'un de ces gens pour essayer de comprendre comment ils ont vécu. Et nous avons un exemple, une illustration. Il y en a plusieurs, mais c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui s'appelle Guillaume de Seacourt en Berkshire, près de la Tamise, au sud d'Oxford. On peut le voir comme tenancier de l'ancien abbé d'Angleterre, Abingdon. Il a été présent, il a fait le service à l'abbé au cours au Shire Court de Berkshire. Mais son père est mort assez jeune. Il est mort après avoir connu la colère du roi Guillaume le Roux. Il a perdu beaucoup de terres. Mais sa veuve, la mère de Guillaume of Seacourt, sa veuve est devenue concubine du futur roi Henri Ier. Et en conséquence, quand il était âgé, William ou Guillaume de Seacourt of Seacourt a traversé la Manche pour discuter avec l'ami de sa mère, et il a obtenu plus de terres que son père a perdu. Donc nous avons là quelqu'un qui s'identifie comme anglais par le lieu de pouvoir, mais certainement qui a vécu une vie transmanche. Et nous pouvons utiliser les chartes, beaucoup de chartes, pour démontrer qu'il y a eu des gens qui ne sont pas possédés en Angleterre, qui se sont allés en Normandie, et l'inverse. Et ça, il y a là une analyse prosopographique énorme à faire. Mais j'espère que j'ai démontré ce qu'il faut démontrer pour ce soir, la nécessité de faire une analyse des vies transmanches. Et maintenant, nous pourrions tourner vers un autre de nos grands historiens du XIIe siècle, Henry of Huntingdon, Henri de Huntingdon. Et je ne peux pas résister m'interrompre pour enserrer cette petite histoire. C'est étonnant. C'est la manière de faire attrayer les touristes. Il est en train de décrire une nuit danoise à l'est de l'Angleterre. En l'an 1010, les armées du roi de Danemark, Sven Folkbeard et de Canute, et il dit, ils ont beaucoup tué. Ils ont ravagé la terre. Ils ont mis les têtes des enfants sur les lances. Oh, c'est terrible. Et ils ont fait des choses. Et après, ils sont venus à un joli village qui s'appelle Balsham, sud de Cambridge. Ils sont venus à ce joli village. Il faut toujours visiter cette village parce que c'est joli. Et après, ils ont beaucoup détruit. Et puis, ils sont venus à Huntington. Ville magnifique, beaucoup plus supérieure à Bedford, ou etc., etc. C'est le patriotisme local. Et comme vous avez sans doute anticipé, il a eu une père normande et une mère anglaise. Et il a écrit une histoire qui s'appelle La Historia Anglorum, l'histoire des Anglais. Et il l'a décrit comme l'histoire de notre peuple. Question encore de l'identité. Mais on ne doit pas conclure immédiatement que Henry s'est devenu anglais parce qu'il a beaucoup écrit sur la domination normande qu'il a cru. Beaucoup qu'il a coûté une chose qui a bénéficié les Anglais. C'est un sujet complexe. Mais et il a écrit une parole pour les soldats pour la bataille de Standard de l'étendard en 11038, une bataille entre les barons du nord de l'Angleterre et le roi des Écossais David Ier. Et la parole de l'évêque a été ainsi. Vous avez conquis l'Apulie, la Calabrie. Vous avez conquis Jérusalem. Vous allez conquérir ces Écossais. Et après, ils disent, les Anglais et les Normands ont applaudi. Donc, il est en train d'associer les Anglais avec les conquêtes des Normands. C'est une vie d'un empire, je crois. Et encore, on peut illustrer ce sujet en disant qu'il y a encore des gens qui vivent des deux côtés de la Manche et en restant à l'est de l'Angleterre, on peut mentionner la croisade contre Lisbonne de 1047. Où ont participé les Flamands, les Normands et les Anglais de l'Est de l'Angleterre, etc., etc. Mais c'est un autre aspect de la vie de Henry of Huntingdon qui m'intéresse et dont je vais parler un peu. Parce que, et vous l'avez déjà anticipé en général, il est venu en Normandie. Il est venu en Normandie à l'abbaye du Bec, la grande abbaye de l'enfant, l'enfant Anselme, beaucoup étudié par Véronique Gazot et beaucoup de mes collègues. Il est venu au Bec et il a rencontré un autre de nos grands historiens, Robert de Torigny. Et Robert lui a montré une histoire qu'il n'a pas connue, une des best-sellers de tout, la Historia Britonum, l'histoire des Bretons, et par laquelle on doit comprendre tous les Bretons des îles britanniques et de la Bretagne, de Geoffroy de Monmouth. C'est l'histoire qui a créé le roi Arthur. Nous ne devrions pas dire aucune chose de cette histoire. Et il y a une industrie de publication de ce sujet. Mais ce qui est intéressant est que la première mention, presque la première mention de cette histoire a été en Normandie. Et elle a été en 1139. Pas un an tranquille dans les histoires anglo-normandes, c'est le débarquement de l'impératrice en Angleterre, la guerre civile. Mais ces historiens l'ont discuté et l'histoire Brittonum est venu en Normandie. Donc, il existe en Normandie une entrée dans l'histoire des Anglais, et cet intérêt a continué avec Robert de Torigny, et je suis allé à Vranches à la fin de la semaine dernière pour consulter le manuscrit. Il a continué son histoire des Anglais vers la fin de sa vie. Et ce qui est aussi très intéressant est que, très vite, un autre de nos grands historiens, un homme aussi bien connu à tout le monde, Vaz. Son premier œuvre, son premier grande œuvre, a été de traduire en français la histoire de Geoffroy de Monmouth, en omettant, il faut dire, plusieurs prophéties de la fin de la domination de les Normandes aux îles britanniques, mais il a fait une traduction assez fidèle. Et il l'a fait pendant cette même période, la période de la guerre civile. Je suis plein de faire la conclusion. Il faut faire la conclusion. J'aime parler de toute cette histoire, mais c'est impossible faire cette conférence sans mentionner la pierre de Caen. Impossible. Et j'ai résisté à la mention de la pierre de Caen jusqu'à ce moment. Mais maintenant, je vais la mentionner. Elle a été, je vais dire des choses très très courtes parce que je crois qu'il y a beaucoup de possibilités là-dedans. Les statistiques nous manquent. Les historiens ne savent pas ce qu'il faut faire avec cette industrie, avec les carrières de Caen. Lucien Mousset, excusez-moi de faire une petite plaisanterie de ce grand historien. Il a écrit que les quantités de pierres qui ont traversé la Manche sont hors de l'imagination. Ce n'est pas une observation très précise, mais et je crois qu'on peut préciser un peu par un dialogue entre les historiens de l'architecture et les archéologues et les histoires de l'économie. Mais sans aucun doute, nous devrions, des historiens de l'économie et de la société, nous devrions dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans les carrières ici au XIIe siècle qui ont profité de la vie transmanche, même s'ils n'ont pas traversé la Manche. Et en revenant au désastre du naufrage de la Blanche-Neuf, il faut mentionner que le seul survivant, c'est bien connu, c'est un boucher de Rouen, Berrou. Il a survécu une commotion en traversant la Manche. On l'a cru un peu extraordinaire que tous ces aristocrates ont péri et un marchand a survécu. Cela, il faut la mettre à part. Et finalement, deux observations très très vite sur ce même sujet. En utilisant par exemple l'architecture, des choses qui m'intéressent de l'architecture, il y a la langue de l'architecture qui peut nous informer. Il y a des églises presque identiques des deux côtés de la Manche. À Croyé, par exemple, en Bessin, et à St. Margaret at Cliff, in Kent, dans le comté de Kent. Il y a là deux églises presque identiques. Nous ne connaissons rien, je crois, des gens qui les ont construits. Mais c'est certain que des artisans ont traversé la Manche. Et je peux continuer avec ces observations, mais seulement deux, très très vite. Il faut, je ne peux pas résister à une petite mention des religieuses de l'abbaye de la Trinité de Caen qui ont reçu tous les ans de l'Angleterre le fromage. C'est difficile à croire pour moi, mais ils ont reçu le fromage. Et oui, ils sont des documents très très clairs. Et finalement, il faut dire que tout cela nécessite de nouvelles recherches sur le sujet de la mer et de la Manche. Et il y a 25 ans, et maintenant il faut être sérieux, le professeur Lucien Mousset a écrit un bon article sur les périls de la Manche. Et John Le Patterel a beaucoup écrit sur ce sujet aussi, nos grands maîtres. Mais il y a une Américaine parmi nous qui est en train de faire visite à Caen pour faire un doctorat sur la mer. Donc, de tout cela, vous voyez les possibilités recherches, les recherches en progrès. Je peux dire beaucoup et je ne vais pas le dire parce que c'est vers la fin. Je peux beaucoup dire sur la continuité des divergences dans la loi, dans les institutions, les convergences. On peut mentionner une moine de Fécamp qui est allée à Oxfordshire en 1155 et qui a écrit une lettre en disant « Oh, je ne comprends les choses ici ». C'est très, très difficile, la loi est différente. Mais sans doute, il y a beaucoup de gens qui ont traversé la Manche et qui ont beaucoup compris. Et c'est de tous ces gens que j'ai essayé de parler ce soir. Et je suis très conscient qu'il y a beaucoup plus que j'ai pu dire, mais les conférences demandent qu'on se limite. Et donc, à ce moment, ici, je vais finir, mais je suis très content d'entendre des questions et d'essayer de les à répondre. Merci.
Oui, vous avez dit qu'il y avait 1 million d'habitants en Normandie.
Oui, c'est une estimation.
Une estimation, bon. La proportion de descendants des Vikings était de combien?
Ça, c'est une question beaucoup plus difficile que l'estimation de la population. Mais je vais dire que tout simplement, il me paraît que, c'est mon opinion, et c'est, je crois, une opinion partagée par des autres, que la conquête de la Normandie a été une conquête par une élite d'aristocratie qui ont eu avec eux, des fermiers et des familles. Mais c'est une minorité, assez grande pour influencer énormément la toponymie de certaines régions et surtout les noms, les prénoms. Et c'est presque le même. L'équivalent, c'est l'Angleterre. Ils ont beaucoup changé les noms, mais sans être nombreux. Mais ce sont des questions très, très difficiles. Et excusez-moi, ce n'est pas mon sujet de ce soir.
Non, mais alors justement, ma question, c'était... Parce que ça, c'est une première question pour fixer un petit peu les choses. C'était de savoir si les Normands qui sont allés vers l'Angleterre étaient plutôt des familles d'anciens Vikings plutôt que des Normands de souche.
Il y a une réponse assez facile. Il faut lire laconique anglo-saxon. Les Northmanni, les Normands, ont perdu la bataille de Stamford Bridge. Les gens venus du nord ont été battus par le roi Harold. Ce sont les Français qui ont gagné la bataille de Hastings. Et ce sont les Français qui sont dans les brefs d'Angleterre. Donc, il faut souligner que l'identité est complexe, c'est une identité normande, mais après 7 ou 8 générations, il y a eu beaucoup de changements depuis le commencement. Et comme a démontré presque tout le monde, on a mentionné Lucien Bousset plusieurs fois, mais il y a des autres qui diraient, il y a eu une rupture assez grande entre le Nord et la Normandie au commencement du XIe siècle.
Oui, vous avez beaucoup parlé des Normands qui vont en Normandie, des hommes. Est-ce qu'on a une idée des femmes normandes qui vont en Angleterre? Est-ce qu'elles reviennent en Normandie après? Qu'est-ce qu'elles deviennent sur place?
Oui. J'ai dû les en parler. C'est un sujet très, très important. Comme toujours, avec les documents de cette époque, nous connaissons moins des femmes que des hommes. Mais il y a eu des études, des mariages, et j'en ai parlé. Et en premier, c'est en dépit de ce que j'ai dit, c'est très difficile de découvrir au niveau aristocratique les mariages entre les Normands et entre les hommes venus du nord de la France et les Anglaises. Et normalement, les femmes sont nommées dans ces chartes, dans les chartes surtout, il m'apparaît qu'au niveau aristocratique, les mariages ont été toujours avec les Françaises. Donc, ces femmes ont traversé la Manche. Et nous avons beaucoup de témoignages, et on peut commencer avec les reines, surtout la Mathilde, reine de Guillaume le Conquérant. Ils ont participé au gouvernement, comme presque partenaire avec le roi. Donc, on peut dire des études des mariages que je vous ai un peu déçu au sujet de la classe dirigeante, de la classe dominante, de la haute aristocratie. Je soupçonne néanmoins que, au niveau plus bas, les femmes ont moins traversé la Manche, mais c'est un sujet difficile. L'autre chose à dire, qu'il y a une des histoires d'ordre vital, et des femmes en Normandie qui ont demandé que le mari revienne en Normandie et pour les revisiter. Toutes ses compagnes, il ne faut pas les faire, oui, etc., etc. Donc, oui, c'est une... Sans aucun doute, la traversée de la Manche, les vies transmanches ont été des vies masculines et féminines. Et il y a, on peut reparler des noms de la Trinité, par exemple. Ils ont administré des terres de l'autre côté de la Manche. Les noms ont fréquemment traversé la Manche, même que l'administration a été centralisée ici, à Caen.
Quelle langue ont parlé après Hastings en Angleterre et qui parlait quelle langue?
Quelle langue a-t-on parlé? La première réponse, c'est la même qu'on doit donner à presque toutes les questions, c'est difficile. Mais on peut faire des choses. On connaît que Guillaume le Conquérant a essayé d'apprendre l'anglais, mais il n'a pas réussi. Des histoires que j'ai raconté d'Audric Vital, de Henry of Huntingdon, tous deux fils des prêtres, on connaît qu'ils sont, comme enfants, ils ont parlé l'anglais. Donc, en toute probabilité, pas au niveau de l'haute aristocratie, mais au niveau plus bas, on a commencé très vite à apprendre et à parler l'anglais. Et on peut le voir, il y a plusieurs narratives, plusieurs textes, des procès légaux qui démontrent le bilinguisme et presque le multilinguisme près du Pays de Galles. Donc, c'est une société bilingue et multilingue qui doit se faire comprendre. Ça, encore, c'est une. Il y a beaucoup. On a beaucoup écrit de ce sujet, mais j'ai commencé avec Aldrich Vital. Est venu à Saint-Évroult et il a écouté une langue qu'il ne comprenait, qu'il n'a pas compris, même si son père a été de la France.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci tout d'abord pour la conférence. Ma question est la suivante. Avez-vous trouvé dans vos documents trace ou mention de la mise en place d'un système de circulation maritime entre l'Angleterre et la Normandie pour permettre justement à ceux qui vivaient d'un côté et de l'autre de pouvoir plus facilement...
Je peux dire plusieurs choses, mais encore je vais mentionner Lucien Mousset parce que c'est lui qui a... dans un article dans l'Association des Amis, etc., annuaire des cinq départements de la Normandie, auquel il a fait référence des grands ports des deux côtés de la Manche. Et à ce moment, j'ai rien à ajouter, mais il y a Barfleur, Ouistreham et Dieppe, et Hastings, Portsmouth, et Southampton. Et on peut déduire des franchises, des donations au monastère normand la plupart des bateaux passent par ces ports. Donc les documents, et ce sont des brefs royaux qui donnent les privilèges à ces abbés, on peut déduire là un système très bien organisé, presque régimenté, et en conséquence les abbés ont ils ont reçu des exemptions des temps-lieux au port. Et peut-être je vais mentionner finalement que ce n'est que les vivants qui ont bénéficié de la vie transmanche. L'historien qui nous informe le plus sur l'histoire du 11e de Barfleur, c'est Herman, moine de Bury St. Edmunds. Et dans l'histoire des miracles de St. Edmund, parce que c'est St. Edmund qui a sauvé les gens des naufrages près de Barfleur. Donc les saints ont commencé à vivre les vies transmanches aussi. Oui, c'est un sujet bien étudié, mais je n'ai aucun doute qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire.
Oui, bonsoir. Alors, ma question est à peu près dans le même genre. Est-ce qu'on a une estimation de combien de temps on mettait, disons, d'aller de Barfleur à Southampton à l'époque et de qui, surtout, voyageait sur ces bateaux?
Ah, oui. Ce n'est pas mon vrai sujet. Il y a des gens qui peuvent répondre parce que je suis conscient que le Patrel a beaucoup écrit. Je crois qu'on fréquemment on a traversé la Manche pendant la nuit. C'est ce qui s'est passé en septembre 1066 et c'est ça qui s'est passé le soir terrible du naufrage de la Blanche Neve. On estime que ce sont des grands bateaux. Avec des gens pour il y a plus de d'une on peut faire les faire oui donc et l'histoire des traversées de la Manche est devenue presque institutionnelle parce qu'il y a des phrases dans les chartes qui disent que on parle de la des traversées de la Manche des rois les transfretatio regis. Oui. Donc, ce n'est pas une réponse très précise, et excusez-moi, parce que je suis conscient qu'il y a des autres qui sont en train de faire des choses. Merci. Je ne dirais que je suis convaincu que ces traversées ont été assez fréquentes, et même que nous connaissons beaucoup des désastres, les naufrages dans la Manche sont comme les naufrages des avions de nos jours. On se souvient toujours des catastrophes.
Bonsoir. Bonsoir. À Caen, on maîtrisait la pierre de Caen, en fait. Hein. Mais les Anglais maîtrisaient quoi comme domaine, comme industrie, comme qui pouvait venir après en France, quoi, en importation?
Depuis l'âge de fer, on a exporté en Normandie le thym et le plomb. Il y a des mines, de bonnes mines de plomb au centre de l'Angleterre, à Derbyshire, et je crois. Et il y a des archéologues qui doivent répondre à ces questions. Je crois que le plomb a été transporté aussi en Normandie de l'Angleterre. Et il y a des produits, les possessions des deux côtés de la Manche, des abbayes, certainement ont créé un transport des produits agricoles. Nous connaissons tout cela des documents de la Trinité. Et on a transporté aussi de l'argent en disant money, les pièces, mais aussi l'argent lui-même. C'est frappant que Robert de Torigny devient très passionnant quand l'argent qui est venu est de mauvaise qualité. Si on voudrait faire construire une estimation, une balance, je crois que ce qu'il faut mettre l'accent sur les continuités d'après 1066, les cas spéciaux comme la pierre de Caen qui a créé de vraies industries ou qui ont stimulé énormément les industries de la Normandie, de la Normandie. Mais il existe depuis le milieu du XIIe siècle, on a transporté beaucoup plus les vins du sud-ouest de la France en Angleterre que les vins qui ont été transportés par Rouen et par la Seine, et aussi et finalement les liens commerciaux de la laine de qui ont existé entre la Flandre et l'Angleterre ont continué. Donc ce n'est pas un vrai empire commercial.
Peut-être une dernière question.
Vous avez beaucoup parlé de l'importance de l'émigration normande en Angleterre. Peut-on déterminer finalement le nombre d'Anglais qui sont venus en Normandie, par contre?
Oui, les Anglais qui sont venus en Normandie, oui. Bonne question. Et c'est encore, je souligne les difficultés, parce qu'il y a eu un changement énorme des prénoms en Angleterre en conséquence de la conquête de 1066. Donc, nous pouvons trouver beaucoup de gens, nous pouvons trouver des exemples de quelqu'un qui s'appelle Athelred ou Athelwolf, des noms presque complètement disparus de la langue anglaise, et ses fils s'appellent Robert ou Guillaume. Et si non a pas, et si nous ne connaissons pas les noms des parents ou des fils, nous devrions trouver toujours les Robert en pensant qu'ils sont des Normands, même que s'ils sont des Anglais. Mais et il faut commencer, c'est absolument nécessaire de commencer avec cela. Et le second problème de méthode. C'est le problème dont j'ai parlé, de la mélange des peuples et des problèmes de faire une identification facile de l'ethnicité. Ce que je, en disant tout cela, ce que je, I mean, la réponse est, la réponse que je vais dire est, il faut que je ferai plus de recherches de la seconde moitié du 12e siècle, mais je crois que les gens qui sont basés en Angleterre, peut-être les gens qui descendent des conquérants, mais je crois que les gens basés, et on peut le démontrer par exemple par les gens de Southampton, des ports du sud de l'Angleterre, qu'ils viennent fréquemment en Normandie. Et les rôles de l'échiquier de la Normandie, que je n'ai pas vraiment consulté pour cette étude, il démontre des gens qui traversent la Manche d'une côté de l'Angleterre en Normandie, et ça, c'est surtout les gens qui apportent les fromages, etc., etc. L'histoire en général doit être une histoire plus au commencement une histoire de l'immigration du nord de la France en Angleterre et Pays de Galles et à l'Écosse et j'ai omis ce que j'ai voulu essayer de dire de l'Écosse parce que le temps me manque, mais pour les deux ou trois premières générations, il faut que la poussée, le courant est du nord de la France aux îles britanniques. Les échanges deviennent les plus égales, je crois, après.
Voilà, donc je pense qu'il y aura encore beaucoup de questions. Et remercie encore David Bates pour cette conférence, sa disponibilité. Je propose qu'on l'applaudisse encore une fois. Merci.